Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, j'ai au bout du fil Jason Brennan pour parler de son nouveau film L'Inhumain qui sort à la Maison du cinéma ce vendredi. Salut Jason, ça va bien?
Salut Alex, ça va bien?
L'Inhumain, j'ai eu la chance de le voir, vraiment un très très bon film, un film de genre, on va pouvoir y revenir dans quelques instants, parce que si on en a couvert quand même certains films de genre québécois, on dirait que c'est un style qui commence à être de plus en plus présent, puis c'est tant mieux comme ça, mais avant ça, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur le film et surtout sur cette réadaptation-là, disons, de la légende du Wendigo, une légende qui est évidemment issu des communautés autochtones, mais qui a plusieurs significations dépendamment de qui l'interprète et tout. Puis j'aimerais ça savoir un peu, d'une part, qu'est-ce qui t'a donné envie de porter cette légende-là à l'écran, ou en tout cas ta version à l'écran. Puis justement, toi, c'est quoi ton interprétation, ta version de la légende du Wendigo?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, moi, à la base, mon père est autochtone, ma mère est québécoise. Donc, okay. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse sur une communauté autochtone, donc à Kitigan-Zébé, qui est juste au nord là, de Gatineau. Okay. Puis, la première fois que j'ai entendu parler du Wendigo, c'était un peu comme une blague. Tu sais, on en parle un peu comme le bonhomme 7 heures en cousin et cousine pour se faire peur. Puis là, par la suite, j'en entends parler un petit peu plus, puis ça vient de gens qui sont un petit peu plus âgés. Et finalement, je me rends compte vraiment que c'est une partie intégrale de la culture. C'est un petit peu... on l'utilise beaucoup plus avec le côté mythique ou de tenter d'expliquer certains phénomènes qui se passent. Et on explique comme que le Wendigo est toujours présent et autour de nous. Donc, c'est vraiment ça la première fois. Puis moi, ce que je voulais faire par rapport à ça, c'est que je trouve que les thèmes derrière l'histoire du Wendigo, c'est-à-dire le côté avare de l'homme, les vices et tout ça, c'était quelque chose que je voulais explorer, mais de ramener ça surtout à une histoire contemporaine, qu'en fait, c'était peut-être une prémonition des aînés à prédire que en bout de ligne, ça pourrait devenir quelque chose qui nuit extrêmement à la culture autochtone.
Mm-hmm. Je lisais un petit peu, moi, sur la légende, parce que c'est ça, on dirait que je connaissais le nom, mais je savais pas trop à quoi ça faisait référence. Puis là, c'est ça, il y avait différentes interprétations. Il y avait aussi toute la question des vices, oui, mais il y avait aussi l'espèce de retrait de la communauté, ou en tout cas l'importance de la communauté qui est quand même bien présente dans certaines versions de la légende. Puis je trouvais que justement, le personnage principal qui est interprété par Samian, qui justement est cet homme-là qui est coupé un peu de sa communauté, qui hésite à revenir, bon, à cause justement des problèmes, en tout cas de cette créature mythique et de cette peur de retourner là-bas, mais il y avait cet isolement de la communauté qui est à la base même de la légende. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais quand même représenter dans L'Inhumain?
Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que moi, par rapport à ça, il y a beaucoup de similarités entre ma vie et celui du personnage, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui a un parent, comme je disais, qui a un parent autochtone, mm-hmm. mais j'ai grandi majoritairement hors communauté. Puis lorsqu'on est cette personne-là, ben on est souvent confronté au fait on se questionne par rapport à nos racines, puis on se questionne par rapport à est-ce que c'est plus facile de juste vivre une assimilation.
Ouais.
En fait, c'est un petit peu ça, tu sais. Puis selon ce que j'ai entendu des récits de mes aînés et puis d'autres récits, c'est que le Wendigo, c'est une façon de faire comprendre, parce que le côté égocentrique de l'homme n'était pas nécessairement là avant,
mm-hmm.
chez les communautés. Tu sais, c'est quelque chose qui est venu avec la colonisation, le côté matérialiste et tout ça. Donc, on prônait beaucoup plus l'importance communautaire ou de petites familles, et puis quelqu'un avait son rôle à jouer. Donc, c'était un peu ce message-là que les aînés pensaient qu'à un moment donné, lorsqu'on perd cette notion-là, ben on se retrouve souvent à commencer à être tenté par un Wendigo. Puis même aujourd'hui, il y a encore des aînés qui croient beaucoup là-dedans. Ça reste que le Wendigo, dans nos communautés aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est tabou. Et puis, il y a des gens qui vont... il y a des aînés qui vont dire que cette créature-là attend de se manifester chez les gens qui succombent à leur vie.
Mm-hmm. Oui. Puis on le sent quand même assez bien, le personnage qui est justement tourmenté par ses vices. Le film est flirte un peu avec l'horreur, un peu avec le fantastique et tout. Fait que on peut dire que c'est un film de genre. Et puis est-ce que tu es un amateur, toi, de films de genre, ou si au contraire, tu sais, c'est un peu pas le choix de t'inscrire là-dedans, parce que si tu veux raconter l'histoire que tu veux raconter, ben t'as pas le choix d'aller un peu vers le cinéma de genre. Est-ce que tu aimes ça, le cinéma de genre?
Oui, ben en fait, comme jusqu'à un certain point, tu sais, je ne suis absolument pas un gars de films d'horreur. Je suis un gars de films qui pose un questionnement par l'entremise de sujets qui sont particuliers. Tu sais, je pense à, tu sais, j'ai nommé des vieux, tu sais, comme des Cronenberg ou des vieux films comme le vieux film Flatliners, où est-ce qu'on attaquait, tu sais, la mort et tout ça. Donc des films comme ça qui questionnent sur quelque chose de plus gros, mais dans un setting pas habituel.
Ouais. Puis je trouve que tu le fais bien, puis tu sais, c'est ça, il y a comme pas nécessairement une résurgence, mais il y a quand même un peu plus de cinéma de genre, je trouve, au Québec. Je parlais justement, puis c'est drôle parce que c'est pas souvent des, un peu comme tu me dis, les gens sont pas nécessairement des grands amateurs de films de genre. Je me souviens, je parlais à Julien Naffo, là, qui a fait Brain Freeze dans le temps d'Halloween et tout. Il était comme, hey, tu sais, moi j'écoute pas ça, du cinéma de genre, mais bon, je voulais m'amuser un peu avec les codes, je voulais sortir un peu plus, puis c'est un peu le constat que je fais avec toi ici, mais aussi, on dirait que le cinéma de genre commence justement à s'implanter dans le cinéma autochtone. Tu sais, un peu plus tôt, c'était pas cette année, je pense que c'était l'année dernière, mais il y avait Night Raiders, qui est anglophone, là, mais qui justement était cette post-apocalyptique là, puis il y a même, ça s'accompagne un petit peu là, puis ça aussi j'ai lu un article, je me souviens plus, je pense que c'était La Presse ou Le Devoir, là, je me souviens plus exactement, mais qui disait que, en fait, le cinéma autochtone commence, il fait de plus en plus de fiction et se détache un petit peu du cinéma documentaire. Toi, c'est ton premier long métrage, ça, L'Inhumain?
Oui, exactement, c'est mon premier long métrage en tant que réalisateur scénariste. Mais j'ai produit. Les gens, en fait, dans le milieu me connaissent plus comme producteur.
Ouais.
Donc, ça fait quand même 15 ans que je produis. Je réalisais du docu avant, mais originalement, j'ai commencé dans le métier parce que je voulais être scénariste-réalisateur. Puis lorsque j'ai débuté, il n'y avait simplement pas de producteur autochtone. Mm-hmm. Donc, je suis devenu producteur par nécessité, là, si on veut.
Ben, c'est ça, tu as fondé Niche Média, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, j'ai fondé Niche Média là 15 ans à peu près. Donc, c'est ça, on a fait toutes sortes de choses, mais c'était majoritairement en contexte autochtone, ou des histoires autochtones.
Mm-hmm. Puis, est-ce que tu constates, toi aussi, ce passage-là vers la fiction, ou en tout cas, cette plus grande place qui est laissée au cinéma autochtone, dans le cinéma québécois? Ouais.
Oui, en fait, pas juste dans le cinéma québécois, à travers le pays. Je pense que depuis, avec nos systèmes financiers, Téléfilm a fait un beau pas en disant qu'on garde un certain montant de notre enveloppe pour le cinéma autochtone. Puis je pense que le levier financier aide de façon à ce que on n'est pas nécessairement catégorisé à faire un genre de film, et aussi les analystes ne s'attendent pas à un film. Ce qui est beau de ce téléfilm, c'est qu'on s'attend pas à quelque chose de bien précis, tu sais, une histoire sur les pensionnats aussi, sur les femmes. Oui, il y a ces films-là qui se font, qui sont extra importants, mais on dirait qu'il y a plus une ouverture par rapport à qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, une histoire autochtone.
Ouais. Puis je trouve ça intéressant, justement. Puis ça donne la place aussi à des talents autochtones de briller, notamment Samian. Je serais curieux de t'entendre. Est-ce que est-ce que tu avais déjà travaillé avec?
On se connaissait, tu sais, il avait déjà fait une de nos vieilles émissions là, longtemps, là, c'est tout début. Donc, on se connaissait, puis je lui avais quand même parlé du scénario là relativement longtemps. Au début, il était intéressé, mais il avait une curiosité par rapport à comment qu'on était pour représenter cette légende-là.
Mm-hmm.
Donc, lui aussi, il se trouve à être Anishinaabe. Donc, c'est quelque chose, le Wendigo, c'est quelque chose avec lequel il a grandi. T'sais, sa grand-mère lui parlait du Wendigo, c'est quelque chose qui était quand même courant. Donc, tranquillement, pas vite, il a commencé à voir les scénarios, je lui ai fait valoir ce que je voulais faire, ce que j'essayais d'accomplir. Puis Puis là, finalement, il a tout le temps accepté. Là, il a accepté. Puis une fois qu'on s'est rendu sur les lieux, là, il a embarqué vraiment là, à 100%. Puis sa performance, je trouve qu'elle est remarquable.
Oui.
Ça, on l'a quand même vu cette année dans Aller 5,
ouais.
Son talent. Puis moi, j'étais honnêtement... j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais à être obligé de donner plus de direction d'acteur. Finalement, c'était beaucoup plus de laisser aller des petits ajustements, mais c'était vraiment lui de s'abandonner là-dedans qui bénéficiait le film là, grandement.
Oui, effectivement. Samian, c'est un acteur très physique. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il dégage à l'écran. Tu mentionnes Aller Simple, justement, mais c'est ça, on le voit de plus en plus à la télévision. On l'avait vu aussi dans, il me semble, est-ce que c'était Bootlegger? En tout cas, il a joué dans certains films dans la dernière année et tout. Puis vraiment, c'est une belle... révélation entre guillemets, là. On est en radio, donc je le connaissais beaucoup plus pour la musique que pour son acting, mais vraiment très surprenant. J'aimerais t'entendre aussi sur les lieux de tournage. Est-ce que tu es retourné justement dans ta communauté d'origine pour tourner ce film-là, ou si au contraire, je pense que ça a été tourné en Outaouais?
Oui, c'est ça. Moi, c'était important pour moi. Fait qu'il y a de la moitié du film qui se trouve être tourné dans la région de Montréal.
Okay.
Moi, j'habite à Gatineau, mais ma communauté est à 1h15 de chez nous. Puis c'était important pour moi de tourner ces aspects-là, ou l'aspect plus en communauté et en forêt près de Kitsikamzébi. Tu sais, je suis entièrement conscient que la raison pourquoi je suis rendu où est-ce que je suis rendu par rapport à mon parcours professionnel, c'est à cause de mes racines autochtones et de ce que c'est mon expérience en milieu autochtone. Donc, tu sais, ce qui est à l'écran, c'est beaucoup des éléments, des souvenirs de ma jeunesse. C'est les grosses épinettes, le paysage, la petite maison qu'on voit des parents Samian. C'est la maison, c'est l'image parfaite de la maison de ma tante lorsque je grandissais. Les personnages parlent comme des membres de ma famille, des gens que je connais. Donc, c'est même drôle parce que lorsque je les présentais à ma famille et ma communauté, je suis sûr qu'il y en a un, il y a quelques-uns d'entre eux qui ont fait « Mon Dieu, c'est moi!
» Oui, effectivement, le film est trilingue, puis c'est bien parce que ça augmente vraiment le niveau de réalisme puis de représentativité. Puis j'aimerais t'entendre aussi sur l'objectif que tu avais en faisant ce film-là. Est-ce que tu voulais justement faire connaître cette légende-là à l'extérieur des communautés autochtones, ou si au contraire tu voulais un peu mettre en image tous ces contes-là que toi t'as entendus quand tu étais jeune, puis qu'il y a probablement d'autres jeunes des communautés là, qui les ont entendus puis qui enfin peuvent le voir en image? C'était quoi un peu ton objectif avec l'inhumain?
Wow, OK. C'est vraiment une bonne question parce que l'objectif a tellement évolué. Tu sais, ça part du... mon objectif premier était à 8 ans, lorsque j'étais à Kitsikamzébi avec mes cousins, puis je regarde les vieux films de science-fiction, les Star Wars, les E.T., et puis j'étais, en partant, un fan de films de ce type-là. C'est ça qui est drôle, tu sais, souvent, moi, j'ai pas de gêne à ça, je suis mordu de ce genre de film-là. Donc, je voulais faire un film qui était plus dans ces cordes-là, tu sais, faire un film qui est accessible pour tous, mais il reste qu'à la base, tu sais, la leçon numéro un au cinéma, c'est écrit ou parle de quelque chose que tu connais.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment lancé dans cette légende-là. Puis là, tranquillement, pas vite, je commence à développer l'histoire, puis là, tu recherches, tu y penses, puis là, tu développes, puis là, c'était le message derrière le Wendigo, puis surtout par rapport à perte de culture, déracinement, puis là, tu plonges, tu dis, est-ce que c'était, tu sais, avec le Wendigo, c'est un peu ça, tu sais, la réalité. J'ai lu beaucoup d'essais sur la légende de différentes communautés, puis on parle de, est-ce que le Wendigo était un parallèle avec le colonialisme,
ouais.
Vient un peu manger la culture, tu sais, est-ce que c'est ça? Donc, c'est tous ces questionnements-là, puis finalement, on arrive à cette histoire-là qui dresse en bout de ligne des parallèles. Puis je pense que c'est une histoire qui, tu sais, l'histoire de perte de culture, déracinement, questionnement, la crise de la quarantaine aussi, ça reste un thème qui est relativement universel.
Ouais. En terminant, Jason, nous, évidemment, on est une émission d'histoire du cinéma, puis on aime bien connaître les influences ou en tout cas les goûts des réalisateurs et réalisatrices qu'on soit avec nous. Puis je serais curieux de t'entendre un peu sur est-ce qu'il y a des cinéastes, toi, qui t'ont marqué, qui t'ont donné le goût de faire du cinéma, peut-être même qui t'ont influencé pour faire l'inhumain, là?
Oui, ben en fait, comme je disais tantôt, tu sais, du certain Cronenberg, j'étais un fan. Tu sais, c'est plus des films qui marquent où est-ce que tu t'attends à voir quelque chose, puis t'arrives, puis tu quittes, puis t'es pas bouleversé, mais tu te questionnes encore. Donc, tu sais, je pense à même tout récemment, tu sais, un Dune plus actuel. Mais je suis un grand fan de science-fiction. Okay. Ça, j'adore ça. Puis j'adore la science-fiction commerciale. donc, j'ai pas de gêne à dire ça. J'aime les effets spéciaux. J'aime tous ces aspects-là. Un autre film qui m'a beaucoup marqué, c'est qui se trouve à être Vanilla Sky, qui était quelque chose hors des sentiers battus, que t'arrivais, tu regardais ça, puis là, t'as comme un gros, tu sais, tu te sens que, oh, mon Dieu, je l'ai pas vu venir. The Game de Fincher, tu sais, encore une fois, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Donc, des films de ce genre, tu sais, de ce type-là, là.
Qui t'amène à repenser un petit peu là, tout ce que tu croyais penser du film. Là. Non, c'est très bon. Il ne faut pas bouder son plaisir hein, non plus. Et,
non,
si on aime les films, les blockbusters, ben, c'est bien correct aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis, ouais.
Parce que si je reviens à ta question tantôt, tu sais, c'était quoi mon objectif avec le film? C'était honnêtement aussi, il y avait une grosse partie là-dedans. C'était si j'étais pour faire un film, puis avec le risque que c'était mon dernier film, ben je voulais avoir du plaisir là-dedans. Puis j'étais extrêmement chanceux avec l'équipe que j'ai eue, que c'est une équipe incroyable, puis on s'est quand même amusé dans le processus.
Exactement. Donc, nos auditeurs et auditrices pourront voir dès ce week-end L'Inhumain qui prend l'affiche partout vendredi dans plusieurs villes du Québec, mais ici aussi à Sherbrooke, à la Maison du cinéma. Merci beaucoup, Jason, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alex.